7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Dans une dizaine de minutes, nous recevrons Mériadec Raffray qui nous parlera de l'Iran. Et puis ensuite, ce sera bien comme d'habitude la chronique de Victor Robert, puis celle de Gilles Brochard. Mais tout de suite, on va parler du pèlerinage de Chartres avec Magda Dautefeuille.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons désormais, pour suivre la ligne droite, Magda Dautefeuille. Rebonjour Magda.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Alors, effectivement, vous vous trouvez à la place de l'invité aujourd'hui.
Exactement.
Pour une raison simple, c'est parce que vous nous revenez du pèlerinage de Chartres. Oui. Alors, donc, expliquez-nous un petit peu. Donc, déjà, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, qui n'en auraient pas entendu parler, quelles sont les dates, combien de kilomètres, quel est le trajet
Alors, le pèlerinage de Chartres, c'est tous les ans le week-end de la Pentecôte. Oui. C'est organisé par Notre-Dame de Chrétienté et c'est une marche, un pèlerinage de Paris jusqu'à Chartres, plus précisément de Saint-Sulpice ou de Notre-Dame si jamais l'occasion de refaire le départ depuis Notre-Dame arrive. Et c'est jusqu'à Chartres, c'est entre 100 et 120 km. C'est en moyenne 35 km par jour, c'est costaud disons. Et voilà, et c'est effectivement.
Et c'est marcher autant qui vous a fait perdre la voix?
Oui, alors exactement. Ouais. Vu qu'il y a beaucoup de monde, il faut parler fort.
Ouais, d'accord. Voilà. Donc vous
j'ai la voix déraillée, je m'excuse.
Ouais, d'accord, ok.
C'est précisément ça. Et donc il y a plusieurs manières de participer au pèlerinage. Il y a le fait d'être pèlerin, donc de marcher. Il y a la logistique qui est très importante aussi. C'est quand même beaucoup de logistique vu qu'il y a cette année il y avait 20 000 pèlerins environ. Donc voilà, c'est un gros événement, c'est tous les ans le week-end de la Pentecôte, ça ne bouge pas.
Ouais. Et alors, ce qui est assez, je crois qu'il y a aussi des étrangers qui sont présents, enfin, c'est essentiellement des Français, mais il y a aussi quelques chapitres.
Oui, exactement, il y a des régions étrangères, il y a même des personnes,
des régions étrangères.
Alors oui, ça s'appelle.
Allez,
ça, oui.
Pour essayer
alors,
de poursuivre. Parce que
moi, j'ai été en logistique, donc j'ai le mot région en tête, mais
d'accord.
Il y a des chapitres, disons, étrangers. Ouais. Il y a beaucoup, de plus en plus, même chaque année d'étrangers, il y en a qui viennent. Même du Brésil, enfin de l'Amérique du Sud,
ouais.
Pour venir spécialement au pèlerinage. Donc c'est vraiment, ça attire beaucoup de monde, même de quatre coins de l'Europe. Voilà, on a beaucoup d'étrangers, je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais...
Je crois qu'on était autour de 1700, quelque chose comme ça, si j'ai bien vu, voilà. Si j'ai bien vu les chiffres. Je regarde Maëlys Clausel par-delà la vitre, comme si elle avait une réponse, mais évidemment, elle n'en sait rien. Voilà, c'est pas elle qui va m'aider. Effectivement. Donc, en réalité, il y a de plus en plus de personnes chaque année à ce pèlerinage de Chartres. Quelque chose qu'on entend beaucoup d'une certaine façon, c'est que ce serait le renouveau, on va dire, d'une jeunesse catholique, de droite, etc. Est-ce que il y a ce côté justement, on va dire, conservateur, identitaire d'une certaine façon dans ce pèlerinage de Chartres?
Alors, j'ai pas envie de dire qu'il se politise parce que ça rend pas le but. Et d'ailleurs, le pèlerinage de Chartres accueille vraiment tout le monde, même des personnes qui ne sont pas baptisées, pas croyants.
Oui, mais on vous demande en tant que journaliste
voilà,
quelque part.
Effectivement, au niveau, si on peut revenir sur la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes. L'âge moyen ne fait que descendre. Il y a quelques années, l'âge moyen, bon, c'est toujours un peu de la vingtaine, mais maintenant il est vraiment à 20 ans. Faut dire que, enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont attirés par ça. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de relativement traditionnel. Hein. Il y a pas, c'est la messe traditionnelle en rite Saint-Pie-V. Et pour autant, ça attire quand même énormément de jeunes. Donc oui, il y a vraiment. En tout cas, les jeunes sont vraiment attirés par ça. On en parle justement d'ailleurs. Vendredi à notre antenne avec Philippe Darentière, qui est président de Notre-Dame de Chrétienté. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'entretien sur nos réseaux. Mais effectivement, il y a complètement une... les jeunes sont vraiment attirés par ça.
Et alors, ce que j'y pense maintenant, mais vous m'avez raconté une anecdote avant d'arriver à l'antenne ce matin, c'est qu'il est arrivé une petite... mésaventure, disons, à un journaliste du service public. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Je pose des questions. des questions à vous, Magda, mais je veux dire, je veux pas non plus.
Bah alors précisément, alors moi justement, j'avais, euh, j'avais pour objectif de faire d'essayer de vous faire un petit reportage sur justement le côté plus logistique que pèlerinage marche et
les coulisses.
Voilà les coulisses exactement du pèlerinage et il s'avère que un journaliste de l'audiovisuel public est venu le mauvais jour. Enfin, il devait venir le dimanche. Il est finalement venu le samedi. Il est venu sur les bivouacs alors qu'il n'y a pas le droit pour les journalistes de filmer quoi que ce soit sur les bivouacs. Et il a commencé sans accréditation à poser des questions à des personnes qui étaient en service, des questions qui n'ont aucun rapport avec le pèlerinage puisque les questions principales étaient pour qui votez-vous? Donc, alors
Ouais.
évidemment, ces personnes ont très bien réagi, n'ont pas répondu ou bien répondu. De manière à ce qu'ils ne salissent pas l'image du pèlerinage ou quoi que ce soit. Et évidemment, il a été sorti du bivouac manu militari, mais le fait est que ça a posé un peu des problèmes d'heure pour les autres journalistes, puisqu'il y a eu, ils ont un peu limité du coup tout ce qui était accréditation, choses qu'on pouvait filmer, etc. Et il a raison. Mais c'est vrai qu'ils se permettent quand même des choses là qui sortent même du cadre, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'être là.
Ils déçoivent jamais quand même,
Ils
hein.
ne
C'est
déçoivent
genre,
jamais, ils nous
c'est
étonnent à chaque
formidable.
fois, c'est ça qui est fou. Voilà, exactement. C'était quand même ouais, un peu choquant. Enfin, on était tous un peu sidérés de la situation, en tout cas de l'audace qu'il a eue, quand même, de se pointer dans un endroit où il n'avait pas le droit d'être, sans accréditation, et à commencer à poser des questions,
Et à fouiner en fait,
à
tout
fouiner, à poser des
simplement, c'est
questions
ça.
qui ne sont pas censées être diffusées. Enfin, voilà,
Et alors, quand vous marchez finalement, on a l'impression que finalement, est-ce que, enfin, c'est rythmé comment? Est-ce que c'est rythmé de chants de prière? Enfin, expliquez-nous un
Voilà,
petit
alors
peu.
exactement, quand on marche, on est par chapitre. Alors, en fait, on est par région, et dans ces régions, on est par chapitre. Et en fait, les chapitres, c'est des groupes de, on va dire, qui vont entre 10 et 70 personnes. Alors, 70, c'est très très gros chapitre. En moyenne, c'est plutôt 30 personnes, on va dire. Et dans ces chapitres, donc, il y a des méditations, il y a évidemment les chapelets, des prières, mais il y a aussi des chants, il y a aussi des moments où on a le droit de papoter ou même de se taire, parce que parfois marcher, on a juste envie de
Vous avez le
parler
droit
à
de vous taire,
personne.
Magda, c'est ça que vous
J'ai
avez
quoi de mon droit de me taire? Ça m'arrive pas souvent, mais j'ai le droit. Voilà, donc il y a quand même on fait un peu, on est un peu libre aussi quand même même d'aller voir des amis si on a envie qui sont dans d'autres chapitres, on n'est pas cloisonné.
Ouais.
Mais voilà, mais la marche est vraiment rythmée par ça, par des moments de chant, des moments conviviaux, évidemment des moments de prière puisque c'est un pèlerinage, mais voilà, c'est pas que ça non plus. Ce qui permet d'avoir un vrai rythme. C'est très chouette, ça. Il y a vraiment, à la fin, on finit quand même assez soudés dans les chapitres.
Oui, parce que
Ça
vous connaissez
crée.
pas du tout tout le monde à l'intérieur de votre chapitre à
Alors, oui,
l'origine, quoi.
voilà, c'est ça.
Enfin,
On connaît rarement tout le monde, voire presque jamais tout le monde. Souvent, on s'inscrit quand même avec deux, trois amis ou deux, trois membres de notre famille pour être un peu ensemble. Et généralement, on rencontre du coup d'autres personnes du chapitre. Et ça peut créer des belles amitiés. Hein. Ça m'est arrivé de faire des pèlerinages et de rencontrer des personnes avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très chouette. Vraiment une très bonne ambiance. Voilà, c'est vraiment des bons moments et on rencontre du monde, on rencontre des gens, c'est très chouette et le rythme est bien fait.
Et alors, Maëlys en parlait dans son bulletin d'actualité, mais le cardinal Burke était présent également cette fois-ci.
Là, effectivement, il est venu à Chartres à l'arrivée des pèlerins à la cathédrale. Il a parlé même directement à des pèlerins, il n'a pas fait que venir et parler. Faire un discours ou une
Ouais.
homélie devant tout le monde. Mais voilà, il est venu auprès des pèlerins, il était présent, c'était un super moment. Oui, voilà, c'était un très beau moment et c'était très chouette qu'il
Et
vienne venir.
alors, donc tout ça se conclut évidemment donc, dans la cathédrale de Chartres.
Oui,
Et alors là, on
c'est ça.
imagine que ça va être du spectacle, quoi. C'est
Ah oui, non, mais alors bon, déjà, malheureusement, tout le monde ne rentre pas dans la cathédrale puisque 20 000 pèlerins,
C'est une grande cathédrale, mais pas à
ça
ce
commence à être
point.
serré, voilà. Même sur les épaules et tout ça, ça rentre pas. Donc, les pèlerins arrivent, ils sont. Enfin, voilà, c'est le meilleur moment du pèlerinage pour l'avoir quand même fait plusieurs fois. C'est un peu le moment de réussite, c'était l'objectif à atteindre et voilà, on arrive. Malheureusement, quand même, ceux qui sont, on va dire, vers la moitié fin se retrouvent quand même souvent dans la rue à pas du tout pouvoir voir la
C'était votre cas?
cathédrale. Moi, ça a déjà été mon cas, mais heureusement, c'est suffisamment bien fait pour que à la fin de la grande messe de fin, de clôture, on puisse quand même aller circuler,
Oui.
faire un tour, etc. dans la cathédrale, parce que
Visiter, ne
voilà,
serait-ce
exactement, parce
que
que marcher jusqu'à Chartres, mais se retrouver dans la rue, ne même pas pouvoir aller à la cathédrale,
oui.
c'est quand même.
Les rues de Chartres sont très jolies.
Les
C'est pas
rues
le
sont
problème, hein.
charmantes,
Attention, tous les
voilà, j'aime
Chartrains qui
beaucoup
nous écoutent,
Chartres.
on n'a aucun problème avec eux.
C'est même voilà, très charmant, mais
Voilà.
cependant, on est quand même très content et c'est un moment. Oui, c'est un moment qui est assez incroyable, parce qu'on arrive et vraiment tout le monde et très heureux d'être là et très content d'avoir atteint l'objectif. Enfin, c'est vraiment un super moment en tout cas.
Mais une personne qui aussi était à ce pèlerinage de Chartres, il s'agit de Maxime Jonas. Maxime Jonas qui arrive de manière un peu impromptue ici. Vous ne le connaissez pas, chers auditeurs, ou peu. Mais Maxime est donc monteur ici à Radio Courtoisie. Alors Maxime, vous étiez plus dans la partie audiovisuelle du reportage.
Oui, j'étais à Chartres avec Notre-Dame de Chrétienté pour l'interview qu'il réalisait avec le cardinal Burke. Mais j'avais fait le pèlerinage en 2024 déjà. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir marcher vers Chartres, faire ce beau pèlerinage en effet. Et bravo Magda, parce que vu la chaleur qu'il y a eu ce week-end, c'était un effort considérable, je pense.
Plus
l'effort est dur, plus les grâces sont grandes, donc félicitations.
On peut parler d'un exploit à ce stade, effectivement, mais d'ailleurs, on félicite Magda d'être venue quand même ce matin ici, avant 7h, à l'antenne, alors que Alice Meunier, elle, est restée dormir chez elle. Elle est restée à Chartres. Il nous reste 2 minutes un petit peu avec vous, Maxime Jonas. Vous avez quand même pu voir en bonne partie le cardinal Burke. Pourquoi était-il ici à Chartres? Quel était le message qu'il voulait faire passer?
Vous savez, Alexandre, le cardinal Burke, c'est une de ces grandes figures du traditionnalisme dans l'Église catholique. Donc c'était une grande chance pour nous de l'avoir. Il célébrait la messe de clôture du pèlerinage. Et il est venu sur le bivouac, le deuxième bivouac de Gaz, pour venir saluer les pèlerins. Il est également venu également les saluer sur le parvis avant le début de cette messe. Et le message, si vous voulez, c'est de montrer que le traditionnalisme en fait porte, parce que la grande crise que traverse l'Église, c'est une crise liturgique, mais qui est avant tout une crise de foi. Et donc cet élan finalement de ces 20 000 pèlerins montre que y a encore beaucoup de chrétiens qui sont attachés à la foi. Il y a une pratique très concrète de cette foi, et traditionnelle évidemment, parce que ça...
Ouais, parce que en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même une très grande démonstration, on va dire, hein, quand même, parce que vous partez
de
Saint-Sulpice,
force, ouais,
hein. Si je dis pas de bêtises. Alors, je vais vous confier, c'est que samedi matin, je me suis levé pour aller faire mes courses, et en fait, j'arrive en bas de chez moi, et je vois donc sur l'avenue du Général Leclerc des centaines de personnes en train de passer, en train de chanter. Effectivement, dans les rues de Paris, c'est assez impressionnant. Mais est-ce que, on a l'impression que, en tout cas, dans le message, pour conclure, que le renouveau de la jeunesse catholique passe par la tradition?
Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, c'est une belle démonstration de force, à la fois spirituelle et identitaire. De ce côté, en effet, oui, un renouveau traditionnaliste qui est encore une fois un exemple concret de montrer sa foi et de cheminer vers la sainteté.
En tout cas, vous avez gardé plus votre voix que Magda. On voit qui a vraiment fait
pas chanté.
Pèlerinage. Exactement. Là. Ah, vous n'avez pas chanté. Ah bah, vous le ferez demain, alors. Merci beaucoup, Maxime Jonas. Merci beaucoup, Magda Hautefeuille, d'avoir été avec nous ce matin, ici, un petit peu à l'antenne, pour parler de votre expérience de ce pèlerinage de Chartres. Et on vous dit à bientôt, sans surprise. Hein. Enfin, voilà. Merci. Et tout de suite, je laisse l'antenne à Richard de Seize, qui va interroger Mériadec Raffray.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et bonjour Mériadec Raffray.
Bonjour Richard de Seize.
Voilà, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles et que c'est à ce titre que nous allons parler ensemble de l'Iran, puisque bien sûr tout est en train d'avancer à grands pas. Je crois que nous sommes dans le 88e jour, au 89e en fait, aujourd'hui le 89e jour du conflit, qui était censé durer 15 jours. C'est un premier élément.
Oui, 88 jours. Et en fait, peut-être que vous l'avez vu ce matin, mais une partie du conflit, enfin les frappes ont repris, puisque le commandement central de l'armée américaine a annoncé que cette nuit, l'armée américaine avait de nouveau réalisé des frappes de missiles dans le sud de l'Iran, en particulier du côté de Bandar Abbas, qui est le grand port en fait maritime de guerre de l'Iran. Le CENTCOM a dit qu'il avait tiré en fait des cibles de missiles, mais également a dit le CENTCOM des navires iraniens qui s'apprêteraient
à poser des mines.
Miner voilà, poser des mines. Tout ça à prendre évidemment avec précaution. Et alors, ce qui est très amusant ou intéressant ou anecdotique, mais qui est symbolique, c'est que le CENTCOM a bien pris la précaution de dire qu'il s'agissait de frappes d'autodéfense. C'est un point à noter. En tout cas, ce week-end, ce qui était flagrant, c'est que vendredi et samedi, les observateurs qui ont le nez collé au guidon de ces négociations pariaient pour une reprise des frappes américaines sur l'Iran. Et tout d'un coup, samedi et dimanche, il y a eu une bascule de ces observateurs, et en particulier français, en particulier de la télévision. Je pointais mon regard si... Richard, je n'en dirai pas plus. Tout d'un coup, bascule inverse et le balancier était revenu du côté des négociations imminentes, un accord imminent. Alors c'est toujours très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien que à chaque fois que les négociations sont dans une phase, de mûrissement avancé, en fait, il y a de chaque côté, ou en tout cas du côté américain, ça c'est certain, comment dire les choses, une volonté d'appuyer un peu plus fort sur le bouton de la dissuasion pour essayer de maximiser son gain. Et ce doigt qui appuie sur ce bouton, toujours au dernier moment, on sent bien que c'est un doigt qui a un lien qui est difficilement descriptible. C'est-à-dire qu'on, c'est compliqué de savoir exactement quel est le lien, mais il y a un lien qui le relie vous allez terminer ma phrase, à Jérusalem.
C'est quand même quelque chose. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais avec Raphaël, c'est quelque chose de très étonnant. Je voudrais revenir juste deux secondes sur les frappes. Là, ce sont les Américains qui frappent, et pour moi aussi citer le communiqué de presse du CENTCOM, autrement dit le centre de commandement américain pour le Moyen-Orient, ils expliquent qu'ils ont fait preuve de retenue pendant le cessez-le-feu, c'est-à-dire ils brisent le cessez-le-feu en bombardant l'Iran, mais en faisant preuve de retenue. Et en expliquant évidemment que ce sont des frappes d'autodéfense, bien sûr, étant donné que ce sont les États-Unis qui ont agressé l'Iran, eh bien, c'est en brisant le cessez-le-feu, mais d'une manière modérée, en faisant preuve de retenue, ils le font pour s'autodéfendre. Est-ce qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui explique aux Américains que la rhétorique du CENTCOM est absolument inaudible ?
Oui, c'est une bonne question. Je pense que il y a au moins un acteur, voire peut-être deux, qui explique aux Américains que c'est pas la bonne rhétorique. C'est en particulier la Chine. La semaine dernière, ensemble, nous avons commenté la visite successive à Pékin de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Et je pense que les Chinois, d'ailleurs, on sait aujourd'hui que les Chinois sont à l'origine d'un plan en quatre points principaux qui, sans doute, a été pris comme matrice de le plan qui est arrivé dans sa phase conclusive, si l'on en croit les négociateurs iraniens. Eh bien, les Chinois, je pense, ont dit à Trump que, d'ailleurs, ils l'ont dit publiquement, qu'ils étaient contre l'ouverture des frappes américaines au Moyen-Orient, que cette guerre n'aurait pas dû avoir lieu. Et je pense que si Trump retient en particulier ses coups, alors s'il lâche simplement quelques coups, il lâche pas à nouveau toute la cavalerie, la puissance de l'armée américaine, je pense que c'est en partie à cause ou grâce, ça dépend de quel point de vue on se place, des Chinois. Et c'est également aussi, je pense, le message, si tant est que Moscou arrive toujours à faire passer les messages aux États-Unis, d'ailleurs, c'est une vraie question. Mais en tout cas, si c'est le cas, je pense que c'est le message que la Russie fait également passer à Washington. Je pense que c'est également le même message que font passer aujourd'hui les monarchies du Golfe Persique aux États-Unis. C'est encore et enfin le même message que font passer des puissances régionales d'Asie et d'Asie du Sud-Est en particulier aux Américains. Il faut en sortir, il faut en finir par la négociation. de ce bras de fer qui dure et dans lequel les États-Unis, plus ils durent, plus les États-Unis s'enlisent. Et donc c'est, on en est là aujourd'hui. Évidemment, ça n'empêche pas les Américains de pratiquer leur jeu favori et en particulier celui de Trump, c'est-à-dire le jeu du cow-boy. C'est il y a une arène, il y a deux pistoleros et c'est le premier qui tire qui a une chance de tuer, de neutraliser l'adversaire. Ça n'a pas fonctionné la première fois, mais il n'empêche que dans cette dernière ligne droite, en fait, le sujet c'est toujours le même. C'est comment les Américains, comment les États-Unis vont pouvoir sortir de cet accord la tête relativement haute en disant nous avons remporté une victoire, alors qu'en réalité, de facto, ils encaissent une défaite stratégique. Quoi. C'est ça le sujet. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que on a vu un nouvel élément injecté par Donald Trump dans le paquet conclusif de ce week-end, enfin qui pourrait être conclusif ce week-end, c'est que, alors c'était déjà dans l'air du temps, mais là, à nouveau, Trump l'a sorti de manière officielle. Il a dit d'ailleurs, ce qui serait bien, c'est qu'au passage de cet accord, un maximum d'États rejoignent les accords d'Abraham signés en 2020 entre Israël et une série d'États de la région, mais pas que, visant à normaliser les relations, en fait, à normaliser les relations entre Israël et les pays arabes. Donc vous voyez qu'enfin, là où quand ça bloque, Trump en fait déporte sa négociation. D'une part, il remet un coup de pression en distribuant une ou deux frappes, ce qui veut dire aux Iraniens attention, on vous surveille. Et de l'autre côté, comme il est bloqué dans la négociation, on va y revenir, il décale en fait ses demandes et il essaye de maximiser là où il peut son gain et en particulier de maximiser son gain dans le sens qui peut aller favorable à Israël, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à obtenir ce que souhaite Israël sur le fond du dossier, il va essayer d'obtenir un lot de compensation pour Israël, et c'est ce à quoi on observe en ce moment. Alors c'est assez, ce qui est assez intéressant, c'est on peut peut-être revenir, si vous voulez, sur quels sont les ce que l'on comprend de la négociation finale. Alors, je rappelle quand même que hier soir et aujourd'hui, une délégation iranienne s'est envolée pour Doha au Qatar, ce qui est nouveau. Pendant tout le week-end, en fait, les facilitateurs en chef de cette négociation, c'était les Pakistanais qui sont à la manœuvre depuis le début et qui, je le rappelle, on l'a dit ici Richard, font partie des victimes de la fermeture du détroit d'Ormuz. Et là, pour la première fois, Doha, le Qatar, qui est traditionnellement un État qui joue de toutes les partitions diplomatico-politico-stratégiques, qui a un fer dans tous les feux régionaux, revient en fait un peu au centre du jeu diplomatique et accueille aujourd'hui une négociation iranienne. Mohamed Ghalibaf, le patron du Parlement iranien, Abbas Araghchi, le patron des affaires étrangères iranien. Et alors certains spécialistes, comment dirais-je, décryptent ce déport de la négociation à Doha par le fait que on entrerait dans la phase finale qui consisterait à se mettre d'accord sur la partie des sanctions et surtout la partie des avoirs iraniens gelés. Vous savez, on l'a dit aussi, je pense, Richard, à cette antenne, que face aux sanctions, les Iraniens qui sont sous sanctions depuis plus de 20 ans, ont construit, en fait, ont bâti un système alternatif, et en particulier grâce à la présence des plateformes offshore financière de Dubaï, d'Abu Dhabi, de toute cette région. Et dans les banques émiriennes, il y a des milliards de dollars d'avoirs et d'investissements liés en fait aux flux commerciaux iraniens qui détournent en fait le régime des sanctions internationales et américaines. Donc le Qatar, lui, est aussi une pièce maîtresse en fait de cette équation financière. Donc pour revenir au cœur des négociations, je citais tout à l'heure, c'est assez fascinant d'ailleurs comment aujourd'hui apparaissent clairement les vainqueurs et les vaincus. Je parle d'un point de vue stratégique. Et là, on voit bien que ce sont les Iraniens qui donnent le là. Je l'ai esquissé à cette antenne il y a quelques semaines, et de plus en plus, cela paraissait évident. Et aujourd'hui, et on verra d'ailleurs quelle sera la copie finale de cet accord, parce que je pense qu'il y aura forcément un accord. Mais pour l'instant, en tout cas, on voit bien que il semble que le balistique, qui était un élément fondamental mis en avant par les Américains et les Israéliens pour déclencher la guerre, ne serait plus véritablement un sujet de cet accord. En tout cas, il y aurait un point qui serait trouvé, mais on voit bien que à travers les fuites orchestrées par l'administration américaine, on voit bien que c'est plus un sujet, puisque paraît-il maintenant 70% du potentiel du balistique iranien serait toujours existant, ce qui est un chiffre évidemment à prendre avec précaution, parce que mais on voit bien que les frappes américaines et israéliennes n'ont pas neutralisé à 100% le balistique, qui était un point dur pour les Israéliens. Les Israéliens, eux, disent que le balistique n'est plus d'aujourd'hui en capacité de peser sur l'existence d'Israël. Donc ils reconnaissent
quand
même.
C'est certain qu'on a moins d'images de missiles iraniens tombant sur Israël qu'il y a encore 3 ou 4 semaines.
Voilà. Deuxième point, et c'est là où les choses bloquent, mais on voit bien que les Iraniens ne céderont jamais, me semble-t-il, j'espère ne pas être détrompé dans une semaine, sur le nucléaire, mais il faut s'avancer. Les Iraniens ont dit, redit, déclaré à qui veut l'entendre, qu'ils ne céderaient pas sur la dissolution de leur programme nucléaire, et que d'autre part, ils ne céderaient pas non plus leur uranium enrichi. Et d'ailleurs, les Russes ont déclaré ce week-end que, conformément au traité de non-prolifération des armes nucléaires signé par toutes les parties en présence, l'Iran avait le droit à un programme nucléaire civil, évidemment dans la limite que ce programme nucléaire civil ne se transforme pas en programme nucléaire militaire, mais qu'il n'y avait aucune raison, aucune justification pour priver l'Iran du nucléaire civil. Trump, lui, continue à clamer qu'il n'y aura jamais de nucléaire, il n'y aura plus jamais le droit pour l'Iran d'enrichir l'uranium. On verra ce qu'il en est. En tout cas, pour les Iraniens, c'est non négociable. Troisième point qui était dans la balance, c'est le lien et l'utilisation, l'instrumentalisation par l'Iran de toutes les forces rébellions, forces indépendantes, chiites, dans toute la région. Et là, on voit bien que, là aussi, il y a un sujet qui a un point de désaccord. On voit mal comment les deux parties vont pouvoir se réconcilier, puisque un certain nombre de négociateurs et un certain nombre de gens bien informés à Washington ont expliqué qu'on pourrait avoir un accord, ce que d'ailleurs ont démenti les Iraniens, aussitôt Netanyahou a dit officiellement qu'il avait eu Donald Trump au téléphone et que celui-ci l'avait rassuré sur le fait qu'il ferait en sorte que l'Iran ne posséderait plus jamais de programme nucléaire. Donc on voit bien que là aussi, il y a un point dur, et puisque je parlais des proxys, dans la foulée, Netanyahou a annoncé qu'il augmentait ses frappes sur le Hezbollah au sud du Liban, et lundi, l'armée israélienne a frappé au moins 70 points dans tout le Liban, ce qui est quand même considérable. Et d'ailleurs, Netanyahou a à nouveau utilisé sa rhétorique jusqu'au boutiste en expliquant qu'ils allaient désormais passer à la phase suivante avec le Hezbollah pour éradiquer complètement le Hezbollah. On sait ce qu'il en est, vous et moi, d'éradiquer complètement le Hezbollah, Richard. Ce n'est que de la rhétorique. Mais, et là je fais une digression vers Israël, et c'est à mon avis le alors avant de parler d'Israël, les Iraniens reconnaissent que la négociation est entrée dans une phase conclusive, ça c'est assez nouveau, mais que contrairement à ce que disait la Maison Blanche ce week-end, on n'était pas encore en phase de signature. Donc, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une nouvelle négociation à Doha et qui porte sans doute sur les exigences iraniennes, que je rappelle parce que Donald Trump n'en parle jamais, c'est la levée des sanctions internationales contre l'économie iranienne et la levée, enfin le dégel des avoirs iraniens détenus dans les banques occidentales. On parle d'une trentaine de milliards de dollars, c'est compliqué, le chiffre est compliqué à affiner. Mais en tout cas, c'est évident que les Iraniens ne lâcheront pas un accord sans avoir obtenu un bol d'air significatif pour leur économie qui est évidemment très pressurée. Et puis évidemment, le dernier point majeur de cet accord, donc le balistique, le nucléaire, les proxys et les sanctions. Et puis le dernier point, évidemment, c'est Hormuz. Alors là, c'est aussi très intéressant. Dimanche, dès le retour de Donald Trump à Washington après son sommet de 48 heures à Pékin, les Iraniens publiaient une carte du détroit d'Hormuz avec les limites dans lesquelles interviendrait la nouvelle organisation qu'ils ont créée officiellement, dont le nom m'échappe, mais c'est l'organisation qui gère, qui va gérer finalement le passage des navires dans le détroit d'Hormuz, qui n'existait pas avant le 28 février. Et les Iraniens disent, voilà, nous allons mettre en place une nouvelle organisation à laquelle vont devoir vers laquelle vont devoir se signaler tous les navires entrant et sortant du détroit d'Hormuz à l'avenir, et qui va gérer en fait la sécurité, le flux maritime dans cette zone. C'est donc un nouvel impératif et une manière pour les Iraniens de remonter en fait leurs exigences vis-à-vis des détroits d'Hormuz. Alors évidemment, d'aucuns ont parlé de péage. Les Iraniens disent attention, attention avec les mots. Nous allons gérer cette sécurité. Nous allons mettre en place des systèmes, des balises, etc. Et il faudrait plutôt, disent les Iraniens, parler de frais techniques, c'est-à-dire nous investissons pour votre sécurité. En retour, vous nous paierez de quoi en fait faire fonctionner ce système. Alors frais techniques, péage,
redevance a été avancée.
Voilà, redevance. Donc les Iraniens, qui sont très subtils, manient le vocabulaire avec beaucoup de précision, et ils disent, mais il est hors de question que les Américains aient un siège, soit un actionnaire, un stakeholder dans cette organisation, parce que les Américains disaient, ok, vous voulez mettre en place un système de gestion du détroit, eh bien nous aussi, nous intégrerons cet organisme. Et les Iraniens disent, il est hors de question, nous allons travailler avec le seul partenaire possible et légitime dans cette région, c'est Oman, qui effectivement est aussi, comment dirais-je, riverain de ce nœud gordien du détroit d'Hormuz. Là où je pense effectivement que j'ai tendance à penser effectivement que les accords sont, il y a des points encore qu'après on parlera d'Israël parce que c'est un vrai sujet. Mais si, d'ailleurs Israël dit on va parler d'Israël après. Mais là où je pense effectivement que que la négociation est plutôt en bonne voie, c'est que pour la première fois ce week-end, comme vous l'avez noté, Richard, les prix du pétrole sont redescendus sous la barre des $100. C'était pas arrivé depuis au moins le 28 février. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est à peu près le cas. Et ce matin encore, donc hier matin et ce matin encore dans les bourses asiatiques, le cours du Brent, c'est-à-dire le pétrole de la mer du Nord, avait encore chuté de 5%. Il affichait autour de 90-91 dollars. Donc ça reste encore un tiers supérieur à ce qu'il était avant le 28 février. Merci Donald Trump, mais il est clairement en baisse. Et c'est, me semble-t-il, le signal que les marchés croient désormais possible une sortie en fait de crise. Et pour les marchés, la crise, c'est pas le détroit, c'est pas le nucléaire, c'est pas le balistique iranien, c'est le détroit d'Hormuz. Donc, je pense que c'est un bon signal. Maintenant,
d'Israël.
Voilà. C'est effectivement c'est très intéressant, c'est le point bloquant, puisque En début de week-end, quand la presse américaine a laissé entendre que selon les sources les sources américaines, la négociation serait quasiment terminée, aussitôt en fait la polémique a été créé en Israël et il y a eu une passe d'armes officielle hein, dans tous les médias entre Benjamin Netanyahou, le patron du gouvernement israélien, et ses opposants principaux, c'est-à-dire Yair Lapid, qui est le chef de la coalition d'opposition qui prétend gouverner après Netanyahou à l'issue des prochaines législatives, d'une part, et d'autre part avec la droite extrême, l'extrême droite, la droite radicale, nationaliste, comme vous voulez, à la droite de Netanyahou. Et ces deux, d'ailleurs, et le discours de ces deux opposants est le même. Ils accusent Netanyahou de s'être fait sortir des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Donc ils accusent en fait Netanyahou d'avoir perdu la confiance et la proximité avec Donald Trump, et ils accusent Netanyahou en fait de lâcher du lest et d'être obligé finalement d'accepter une négociation dans laquelle il n'y aurait pas la demande initiale et réitérée d'Israël, c'est-à-dire une garantie que l'Iran n'aura plus jamais accès au nucléaire. Voilà le nœud du problème. Et c'est la raison pour laquelle, dans la foulée, Netanyahou a expliqué qu'il allait taper encore plus fort sur le Hezbollah. Et ça, c'est intéressant, puisque les Iraniens, j'en ai touché deux mots tout à l'heure, pour conclure, disent l'une des exigences, donc je vous l'ai dit, c'est la levée des sanctions, le dégel des avoirs, mais aussi la paix, en tout cas le cessez-le-feu à la frontière entre Israël et le Liban. Donc pour Netanyahou, le fait d'accroître ses frappes sur le Liban, c'est un signal direct envoyé à la fois à l'Iran et à Washington pour essayer de faire pétarder cette négociation qui serait conclusive selon les États-Unis et selon Téhéran. Et en fait, ce qui est intéressant à expliquer et compliqué et qui et c'est le point d'interrogation de ces négociations, c'est que en fait la politique intérieure israélienne est en train de prendre en otage la paix entre les États-Unis et l'Iran. Je m'explique. Ces dernières semaines, le plan politique de Benjamin Netanyahou, qui doit revenir devant les électeurs en octobre lors des législatives qui sont programmées, comme la cote de Benjamin Netanyahou dans l'opinion publique israélienne baisse de manière importante et significative, en tout cas dans les sondages, il fait tout aujourd'hui pour pousser la Knesset, c'est-à-dire l'Assemblée nationale israélienne, à voter la censure contre ce gouvernement, ce qui provoquerait en fait la dissolution de l'Assemblée nationale, un peu comme Macron, si vous voulez, à l'été 2024. Et il fait le pari que des législatives anticipées lui soient plus favorables que s'il laisse l'opposition s'installer et installer son discours contre lui, et surtout. Et surtout, si il ne peut pas contrôler, le cheminement de la négociation entre Israël et les États-Unis, cheminement, je viens de le dire, qui serait conclusif, mais selon moi, qui n'inclurait pas le point bloquant d'Israël, à savoir la fin de tout programme nucléaire iranien. Et là, à ce moment-là, ce serait un argument servi sur un plateau par ses opposants pour mettre la pression et faire tomber Netanyahou en disant « Vous avez fait une guerre et vous n'avez même pas réussi à atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé. Il faut donc que vous laissiez la place au successeur. » Et donc, on a cette cristallisation en politique intérieure qui est donc Netanyahou est pris dans un espèce d'étau qui le conduit à accélérer en fait sa dérive guerrière au sud Liban. C'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs dans le dossier que j'ai publié cette semaine dans Valeurs Actuelles à propos de la stratégie israélienne au sud Liban. C'est-à-dire que les généraux israéliens sont pris dans une espèce Oui, d'engrenages guerriers dont ils savent très bien que cela conduit à une impasse militaire, ça peut même conduire à une impasse politique pour eux, mais en fait, dont ils ne savent pas comment sortir, et cet engrenage est alimenté par un Netanyahou qui est pris dans un étau de politique intérieure et qui et dont c'est la seule réponse à la pression mise par l'opposition sur le plan intérieur. Et donc, la question est de savoir maintenant dans quelle mesure ce point dur va-t-il ou non être suffisamment... va-t-il ou non agir sur les négociations qui sont presque conclusives entre l'Iran et les États-Unis. Nous en sommes là aujourd'hui. Et ce qui, la question derrière qui est très intéressante et que je pense aux auditeurs suivent avec, essayent de suivre, c'est la réalité, en fait, de l'influence qu'exerce encore et qu'exercera demain Netanyahou sur Donald Trump lui-même. C'est-à-dire le lien vraiment de proximité entre les deux hommes. Trump va-t-il passer par pertes et profits ce lien pour satisfaire les marchés et l'économie américaine et ses alliés, ou au contraire, va-t-il reprendre les frappes n'ayant pas abouti à débloquer ce point bloquant. On en est là aujourd'hui, Richard. Les choses peuvent encore durer un certain temps, et cette espèce d'état de mi-guerre, mi-paix durer encore, et pendant ce temps-là, nous en ferons, les Européens, mais les Asiatiques aussi, continuent à en faire les frais, et plus le temps augmente, plus les frais seront élevés.
Eh bien, merci beaucoup, Meriadec Raffray, pour ce tour complet de la situation en Iran, en Israël et aux États-Unis. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music... Et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons Victor Aubert. Victor Aubert, comme chaque semaine, je rappelle que vous êtes directeur général d'Academia Christiana. Et alors, vous avez l'air particulièrement bronzé, peut-être est-ce lié au pèlerinage de Chartres?
Tout à fait, cher Alexandre. Eh bien, pour la 18e fois, je participais au pèlerinage de Chartres, accompagnant un chapitre composé d'étudiants, de jeunes, de premiers participants cette année aussi au pèlerinage. Alors, ce qui est frappant cette année en particulier, c'est le nombre de pèlerins qui ne fait qu'augmenter chaque année et qui est limité par les capacités fixées par la préfecture de Chartres. Mais donc, une colonne toujours plus importante avec énormément de chapitres venus aussi de pays étrangers, beaucoup de pays européens, mais également venu d'outre-Atlantique. Donc voilà, une immense colonne qui part donc de 5h30 place Saint-Sulpice pour arriver donc le lundi de Pentecôte à Chartres. Alors ce qui était aussi particulièrement marquant d'un point de vue, on pourrait dire, sociologique, d'un point de vue de l'origine des pèlerins, eh bien, c'est qu'elle est très hétérogène. On voit à la fois donc des jeunes venus de familles catholiques, souvent appartenant à la sociologie de la France, on pourrait dire une vieille bourgeoisie, et puis aussi également énormément de jeunes venant de milieux totalement différents, ayant des parcours de vie tous particuliers, ayant également des histoires par rapport à la foi, par rapport à leur interrogation, et tous cheminant finalement dans des parcours de conversion qui peuvent être variés. On voit donc également beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément encore baptisés, qui ont commencé à faire une demande de baptême ou qui viennent simplement par curiosité. Et le témoignage finalement que j'ai reçu de beaucoup de jeunes avec qui j'ai pu discuter tout au long de ce pèlerinage, eh bien, c'est qu'ils sont particulièrement touchés à la fois par la radicalité de ce pèlerinage, parce que c'est vraiment quelque chose de, on pourrait dire presque une épreuve physique. Il y a eu sous le soleil torride pendant ce week-end de Pentecôte énormément de jeunes qui malheureusement ont fait des insolations, qui ont dû s'arrêter, qui étaient épuisés. L'ordre de Malte était parfois un petit peu débordé pour réussir justement à s'occuper de toutes les personnes qui souffraient de la chaleur. Et je pense que c'est aussi la clé du succès de ce pèlerinage, c'est que justement dans un monde où le confort règne en maître, le fait de d'éprouver à nouveau, de vivre à travers justement une épreuve physique, enraciner sa foi finalement dans l'effort, c'est quelque chose qui vraiment va toucher les cœurs de nombreux jeunes Français, jeunes d'ailleurs de différents pays.
Et alors Christophe, n'importe quoi, pardon, Victor Aubert, désolé, je suis un peu fatigué. Victor Aubert, ce que vous vouliez souligner aussi, c'est que alors que le cardinal Burke, donc chantre de la tradition, s'est rendu au pèlerinage de Chartres cette année, cette visite se place aussi dans le contexte de tension entre les traditionnalistes de la fraternité Saint-Pédis et l'Église.
Ah oui, tout à fait. Chers auditeurs, vous n'êtes pas sans ignorer effectivement que la Fraternité Saint-Pédis, donc qui a été fondée par Monseigneur Lefebvre, donc dans les années 1970, a annoncé récemment donc sacré 4 nouveaux évêques. C'était déjà fait en 1988. Ces sacres épiscopaux avaient donné lieu à l'époque à une condamnation de la part de Rome. Et ces condamnations avaient été petit à petit levées. Il y avait un certain nombre d'accords qui permettaient effectivement aux prêtres de la Fraternité Saint-Pédis d'inscrire les baptêmes sur les registres diocésains, etc. Oui. Et les évêques étant trop âgés, eh bien, il faut de nouveau justement sacrer de nouveaux évêques pour pouvoir continuer d'ordonner des prêtres. Et effectivement, tout ça soulève beaucoup de débats dans l'Église, des débats à la fois théologiques, mais la Fraternité Saint-Pédis a demandé à Rome justement la possibilité d'un accord pour pouvoir ordonner ses évêques, et Rome reste murée dans un silence, dans une condamnation un peu brutale. Et effectivement, on voit que ce phénomène traditionnaliste, qui peut paraître une goutte d'eau dans l'Église à l'échelle mondiale, puisque les traditionnalistes représentent peut-être 1% des catholiques dans le monde, en réalité, en France, et la France qui est peut-être paradoxalement une sorte de poumon de la chrétienté, puisque le christianisme s'est particulièrement effondré en France, mais on voit aussi que la France a généré énormément de missionnaires, que la France a été vraiment un lieu, un poumon spirituel pour le monde, eh bien c'est aussi en France que se joue cette question liturgique. Et c'est vrai qu'on peut déplorer peut-être quand ce week-end de Pentecôte, eh bien il n'y a peut-être pas eu un geste de Rome pour justement, on peut peut-être l'espérer encore, il n'est pas trop tard, mais pour essayer justement de pacifier ces sujets dans l'Église. On peut déplorer effectivement, qu'on soit proche de la Fête Saint-Pédis ou non, on peut en tout cas déplorer qu'il y ait des divisions dans l'Église, et on peut espérer effectivement la miséricorde de la part de Rome pour essayer justement de faire en sorte que cette question liturgique ne soit plus un sujet de tension, mais permette justement l'apostolat à la mission.
Eh bien écoutez, peut-être que ce sera un sujet qui sera thème de la visite papale en France aussi dans quelques mois. Merci Victor Aubert d'avoir été avec nous ce matin, et on vous dit à la semaine prochaine ici sur Ligne Droite. Tout de suite, on va écouter donc la revue de presse de Gilles Brochard.
Ligne Droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Alexandre et bonjour Arnaud. Le pape Léon vient de rendre publique sa première encyclique Magnifica Humanitas, qui alerte sur les dangers de l'intelligence artificielle, cela à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Le Figaro en fait sa une ce matin et le montre en photo, tout vêtu de blanc. Le pape dénonce notamment toutes les nouvelles formes d'esclavage que peut engendrer cette révolution technologique, et Étienne de Montetti, dans son éditorial, s'interroge. L'IA ignore les sentiments, l'imagination, l'émerveillement, l'action de grâce. Pire, aux yeux du souverain pontife, elle est incapable de compassion, de miséricorde, de pardon. Ce sont pourtant ces dispositions du cœur qui établissent la grandeur de l'homme et justifient la dignité, sa dignité. Magnifique humanité, l'IA n'a de raison d'être qu'au service de celle-ci. Fin de citation. Alors, tout est question de mesure et d'objectifs. C'est pourquoi Étienne de Montetti conclut sa chronique ainsi. C'est donc un cri d'alarme que Léon XIV lance, notamment à l'adresse des dirigeants politiques. Ceux-ci ont eu la faiblesse un temps d'abandonner au seul marché la régulation du cours du monde au nom de la prospérité. Il leur revient maintenant d'affronter les géants de la Silicon Valley et de réguler l'IA. La désarmer, c'est son mot. Oui, écrit en écho au propos du pape qui écrit « L'intelligence artificielle doit être désarmée. La parole est forte, je le sais, mais je l'ai choisie délibérément car notre époque a besoin de mots capables d'attirer l'attention, d'éveiller les consciences et d'indiquer des chemins à l'humanité. » Fin de citation, à lire dans le Figaro. Avec ces fortes chaleurs, beaucoup d'entre nous préfèrent manger davantage de poissons et de crustacés que de viande. Le magazine Écologie 360 a fait les comptes et affirme que la pêche française s'améliore tout en sachant que les ressources halieutiques nécessitent une attention constante. Donc, selon le magazine, on peut dresser la liste des poissons et des coquillages qui sont en bon état ou en amélioration. Alors, citons la Saint-Jacques dans la Manche, la Baudroie dans le golfe de Gascogne et la mer Celtique, le Bar, notamment dans la mer du Nord, le Merlu dans l'Atlantique Nord-Est, l'Araignée de mer dans la Manche et l'Atlantique ou encore le Calamar dans le golfe de Gascogne. Sinon, la sole et le thon rouge sont considérés comme des espèces en reconstitution. Et parmi les espèces encore surpêchées à cause du changement climatique, et donc la température de l'eau, la modification des écosystèmes ou la qualité des habitats marins, il faut citer le hareng, l'aigle fin et la seiche. En revanche, ce que le magazine Écologie 360 appelle les populations effondrées ou dégradées sont le maquereau dans l'Atlantique, la sole dans la Manche Est et le merlu dans la Méditerranée. Dans le même numéro, Écologie 360, un dossier est consacré à la santé, titré « Éviter les risques ». Et comme le magazine reste toujours optimiste, le journaliste Pierre Sommet écrit en ouverture que si l'environnement influence directement notre santé de manière insensible et souvent invisible, il existe cependant des solutions simples pour limiter les risques, garder le contrôle et faire du monde qui nous entoure non un danger, mais une source de bienfaits. Car on le sait, 23% des décès dans le monde seraient liés à des facteurs environnementaux. Il faudrait améliorer la qualité de l'air intérieur qui peut réduire jusqu'à 30% les symptômes respiratoires chez les enfants asthmatiques, par exemple. S'en tenir à une alimentation plus saine en évitant ou en diminuant les pesticides, les additifs et les métaux lourds afin d'obtenir une alimentation pour éviter près d'un décès sur 5 dans le monde. Concernant les produits chimiques comme les produits ménagers, plastiques, perturbateurs endocriniens, il est question de réduire l'exposition à ces derniers pour éviter plusieurs milliards d'euros de coûts sanitaires chaque année en France et en Europe. Et puis il reste bien sûr le travail et la tension qui est liée. Ainsi, l'activité physique et régulière réduit de 20 à 30% le risque de mortalité prématurée. Et je ne parle pas de l'impact du bruit sur notre sommeil. Bref, le dossier d'Écologie 360 traite en détail tous ces phénomènes et schémas à l'appui, donne des pistes pour avoir une vie plus saine, à commencer par la maison. Il recommande d'avoir les bons gestes pour s'y tenir, s'y sentir mieux, recommandant d'ailleurs les 5 produits naturels à privilégier dans le ménage. Et je suis certain, Alexandre, qu'en bon écologiste, vous les avez chez vous. Le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir ou végétal et le citron. Le 5 juin, Johnny Hallyday aurait eu 83 ans. 9 ans après sa disparition, à 74 ans, à cause d'un cancer au poumon, on a l'impression que son succès ne s'est pas émoussé et ses fans sont toujours à l'affût d'une actualité qui ne se dément pas. 100 millions d'albums écoulés, rappelle le magazine Téléstar, le chanteur ayant rassemblé 28 millions de spectateurs sur ses 184 tournées, 9 stades de France complets. En avril, 400 fans embarqués à bord d'une croisière thématique en présence de sosies de stars. Et sur scène, c'est son sosie vocal Jean-Baptiste Guégan qu'ils peuvent retrouver partout en France avec son concert hommage à Johnny le show d'une vie. Jusqu'en avril 2027. Et puis, dès le mois de janvier 2027, 500 choristes partiront en tournée avec Toujours Vivant, un spectacle dans lequel ils reprendront l'ultime tournée du Taulier. Après plusieurs projets de tournage, d'ailleurs, de films sur sa vie, Jade Olivier, toujours dans Téléstar, confirme que le tournage de Johnny débutera, alors le film s'appelle Johnny, débutera le 1er juin pour une sortie en salle prévue au premier semestre 2027. Initié par Laetitia Hallyday, auprès du producteur Hugo Célignac, il devait être porté par Raphaël Quénard, qu'elle a elle-même choisi. Mais il a laissé la place, faute de temps, à Benjamin Voisin, donc qui incarnera Johnny. Et Laura Smed, consultée par le réalisateur, a décroché un petit rôle dans le film à sa demande. Elle y jouera Huguette Claire, la grand-mère paternelle de Johnny Hallyday. Reste le documentaire disponible sur Netflix en 5 épisodes, écrit et réalisé de façon remarquable par Alexandre Danchin et Jonathan Gallo, réussi avec des documents exceptionnels et des entretiens avec Johnny à toutes les époques, toutes les étapes de sa carrière. Le seul moment où je suis sincère, c'est quand je suis sur scène, dit-il au début de la série. Voilà, et puis un dernier mot à propos de série, je vous conseille de regarder Légende, magistralement réalisée, qui se déroule en Angleterre sous l'ère Thatcher dans les années 90, une série qui raconte comment des fonctionnaires ont infiltré des réseaux de trafiquants de drogue à Liverpool et Londres, à l'époque où Margaret Thatcher avait vraiment déclaré la guerre aux trafiquants. Les volontaires sont des agents et des gratte-papiers qui s'ennuient fermes dans leur routine et n'ont aucune expérience de la vie sous couverture. Ils rêvent de mieux servir leur pays et de retrouver un sens à leur existence. Alors, comme dans le bureau des légendes d'Éric Rochant, les protagonistes de légendes, avec un S, héros malgré eux, doivent s'approprier leurs nouvelles identités et survivre à un isolement profond. Comment ne pas oublier d'où l'on vient et qui on est vraiment, sans laisser le naturel reprendre le dessus et vous trahir, écrit joliment Constance Jamais. Voilà, c'est à lire dans la page télévision de Figaro. Et moi, je vous dis à demain.
Zone libre.
Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous ce matin. Alors, désormais, zone libre, on doit être efficace. Malgré notre feuille, on va aller à l'essentiel.
On va à l'essentiel sur le plateau du Larzac.
Ouais.
Bon, je vais vous le dire tout de suite, sans surprise, c'est des animaux qui se sont battus, comme quoi les rixes existent partout.
Ouais.
Il y a eu sur le plateau du Larzac, il y avait une grosse brebis morte, 75 kilos.
Oh là, bah,
alors, du coup, elle a été placée sur un endroit où les vautours viennent d'habitude.
Mmh.
Donc, il y a un vautour qui commence tranquillement à déjeuner, mais les temps sont durs pour tout le monde, même
mais
pour
oui,
les animaux
même
aussi.
Pour les vautours, oui.
Voilà, mais pour les vautours,
donc,
un aigle arrive.
Mais...
Un aigle arrive. Il commence à vouloir manger la brebis aussi.
Mais non.
Sauf que les deux n'ont pas voulu partager.
Mais non.
Et ça a fini à 40. Ils sont venus chacun avec leurs copains vautours et aigles. Et ils ont commencé à se battre à 40 sur, dans le Larzac
ouais.
pour manger une super brebis de 75 kilos.
Comme quoi l'insécurité.
Comme quoi l'insécurité.
Est-ce que c'est pas un peu leur tastic
famine,
est-ce que c'est pas leur master poulet?
C'est sans doute leur master poulet parce
ouais.
qu'une brebis de 75 kilos ça donne envie à tout le monde normalement. Mais,
bah, ouais.
mais voilà, mais et ils ont commencé à se battre hein, donc
ouais.
voilà, ça touche vraiment.
D'accord,
tout
et
le monde.
Il y a une vidéo de ça, on peut retrouver ça sur quelque part.
Et bah, je vais essayer de vous retrouver ça
ouais,
comme journaliste.
Bah, le meilleur de l'actu de toute façon.
Le meilleur de l'actu.
Et puis, c'est avec nous les duos animaux. Et puis on précise aussi qu'il y a un nouveau membre de l'équipe hein, qui on peut pas montrer à l'antenne pour des raisons de voilà pour préserver son image mais qui s'appelle Bianca donc petit chien qui vient régulièrement à la rédaction pour égayer nos journées. On va pas le montrer à l'image encore
adorable.
Une fois hein, pour voilà adorable mais pour préserver son anonymat mais voilà elle est encore jeune, elle a l'air très heureuse et là elle est toute excitée à l'idée de voir d'entendre son prénom. Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin, c'est la fin du direct sur YouTube et sur X simplement pour que tout cela se poursuivent pour que vous puissiez avoir même ces nouvelles amusantes sur les animaux, eh bien il faut donner.
Et oui, votre soutien financier est primordial à la survie de Radio Courtoisie, donc je vous invite à nous faire des dons en ligne en vous rendant sur cette adresse soutenir.rc.fr et d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75016 Paris.
Merci beaucoup Arnaud et tout de suite on écoute Guilain Bénessa qui va nous parler de Gabriel Attal parce que oui, le système a trouvé son candidat.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir Guilain Bénessa. Guilain Bénessa, bonjour. Est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Bonjour, très bien. Tout va bien.
Alors, je rappelle que vous êtes docteur en droit public, que vous êtes enseignant à l'université de Strasbourg, entre autres ouvrages que vous avez écrits comme « Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE » que vous avez publié récemment. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de Gabriel Attal. Pourquoi ? Parce que on a l'impression, et c'est un petit peu ce que vous me disiez pour tout dire quand on s'est caché, quand on s'est appelé hier pour préparer cet entretien, ce qu'on s'est dit au bout de quelques secondes, c'est « ça y est, on a trouvé notre prochain président ». Expliquez-nous.
Écoutez, effectivement, pour révéler les coulisses de cette émission, vous m'avez appelé effectivement pour me solliciter, pour envisager le cas de Gabriel Attal, et je vous ai dit effectivement spontanément, on a déjà le président élu, donc on connaît le nom du nouveau président de la République. Alors, évidemment, c'est un peu rapide dit comme cela, mais ça donne l'impression de l'atmosphère en fait, qui se développe depuis quelques semaines. Atmosphère, je le précise, qui conditionne, qui propulse, à mon sens, deux candidats en avant depuis quelques temps, c'est-à-dire Édouard Philippe, mais ça, c'est une sorte de candidat sur le long terme. Hein. On l'avait présenté depuis longtemps comme le successeur un peu logique d'Emmanuel Macron, mais pour plein de raisons qu'on d'envisager peut-être aujourd'hui ou pas, et Gabriel Attal, qui est une sorte de baby Macron tout de même, je veux dire, qu'on le veuille ou non, lui-même le réfute partiellement dans son intervention, dans son entretien dans Brut, sur Brut, mais il n'empêche, il est le baby Macron par essence, puisque il est monté largement sous Macron, il a été ministre plusieurs fois sous Macron, il a été premier ministre très éphémère sous Macron, et il a désormais la charge de reprendre le parti de Macron, je veux dire, enfin, créé par Macron, plus ou moins en tout cas, avec l'aide de tous les autres, on connaît cette histoire. Donc, il n'empêche, Gabriel Attal a quelque chose de cette propulsion aujourd'hui à la présidence, et j'observe tout de même que, comme d'habitude, lorsque les médias ont décidé de mettre en avant un candidat, on a la salve en entier, c'est-à-dire les interventions intimes, le passage sur TF1, le passage sur les réseaux sociaux, l'invitation sur Brut, ça fait beaucoup pour un seul homme, et surtout ça fait beaucoup pour quelqu'un qui, je le répète encore une fois d'emblée, a été au fond exclusivement un des ministres de la fin de la Hollandie et surtout de la Macronie pendant toutes ces années, alors même qu'on rêve, en tout cas que nombre de Français rêvent, de balayer le système Macron qui y prévaut depuis maintenant bientôt 10 ans.
Ouais. Alors justement, Gabriel Attal, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il essaye d'être, comme on dit, entre rupture et continuité. C'est-à-dire qu'il dit, oui, je ne suis pas pareil qu'Emmanuel Macron, parce que maintenant, il y a l'IA. Et d'un autre côté, effectivement, il dit, en revanche, j'assume tout ce que j'ai fait. Étant donné que lui-même a un petit peu de mal à répondre à cette question, est-ce que pour vous, il y a des différences, justement, entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal? On sait que c'est le même système, mais est-ce qu'il y a, Attal assez spécifique dans ce système?
Alors déjà, mais bon, je pense que vos auditeurs, vos spectateurs n'ont pas, comment dire, l'ignorance, ou plutôt la vacuité de croire que les explications franchement très boiseuses du père Attal. Je dis ça volontairement parce que j'ai écouté, grâce à vous, mais je ne sais pas si je dois vous remercier ce matin pour cela, j'ai écouté partiellement, évidemment, l'entretien de Gabriel Attal sur Brut. Et qu'est-ce qu'il dit pour justifier sa différence et le fait que le monde a changé? Il donne plusieurs indications. Premièrement, vous avez raison, il parle de l'intelligence artificielle. Il dit qu'en 2017, quand Macron est élu, il n'y avait pas l'IA, d'accord, première chose. Et deuxième chose, évidemment, bon, ça, on s'y attendait, encore plus peut-être, c'est qu'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, donc il n'y avait pas le retour du tragique et de l'histoire qui balaye un peu tout en ce moment, et donc que les tensions et les dangers actuels, Emmanuel Macron n'avait pas ça en ligne de mire en 2017. Il insiste aussi rapidement sur la laïcité, Gabriel Attal, en disant que pour un homme comme Emmanuel Macron, les questions identitaires, en fait, étaient exclusivement des questions économiques. Donc ça, c'est la vieille lune, vous savez, très clintonienne, hein, puisque du temps de Clinton, on disait déjà « it's economy stupid », c'est-à-dire, en fait, il n'y a que l'économie comme problème imbécile, ne crois pas qu'il y a quoi que ce soit d'autre. Et au contraire, Attal dit qu'il ne résoudra pas uniquement les problématiques françaises uniquement par l'équation économique, et que lui, il a compris ce qu'Emmanuel Macron n'avait pas compris. Maintenant, plusieurs remarques. Si vous demandez à n'importe lequel des présidents précédents, je vous donne un exemple, Nicolas Sarkozy, qui incarnait également, lui, soi-disant, une sorte de rupture dans la continuité, puisqu'il avait quand même fait ses armes sous Balladur, sous Jacques Chirac, et il a été élu en 2007. Nicolas Sarkozy n'a pas géré, on va dire, le traité de Maastricht ou le passage à l'euro, d'accord? Ça l'a pas empêché en 2017 de trouver une sorte de fil conducteur pour démontrer qu'il était le nouveau candidat. Ouais. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que tous les mandats de nos présidents connaissent des nouveautés. Heureusement que l'histoire ne se fiche pas. On s'ennuierait comme des rats morts. Donc, dire comme Attal qu'il y avait la guerre, il y a la guerre, mais il n'y avait pas la guerre il y a 10 ans, ou il n'y avait pas l'IA il y a 10 ans, honnêtement, je m'excuse de l'expression ce matin, c'est un gros foutage de gueule, puisqu'à chaque mandat et à chaque période, l'histoire change. Maintenant, pour moi, le problème, il est simple, c'est que Gabriel Attal, il est, contrairement à ce qu'il essaye de ne pas faire croire, il est totalement comptable des années Macron pour une raison simple, c'est que si vous faites une sorte de chronologie, de biographie d'Attal au travers des années Macron, il n'est pas simplement un Macron boys comme certains l'ont été. Il a été à tous les postes qui posent problème. Je vous donne un exemple. Il a été ministre de l'Éducation nationale très rapidement, certes. On ne peut pas dire que l'Éducation nationale sorte grandie des années Macron. Il a été ministre délégué en charge des comptes publics. C'est-à-dire à la tête, même brièvement, mais d'un poste qui est précisément celui qui connaît le bilan le plus dramatique, puisqu'on a 1500 milliards de dettes en plus sous les années Macron. Je vous donne un dernier exemple, il était Premier ministre, on s'en souvient, très brièvement, là encore, on n'a absolument aucun souvenir des années, des mois Attal, si ce n'est qu'il a été, il a tenté d'être un peu plus ferme sur deux, trois questions dans la rhétorique, notamment sur les questions de l'abaya à l'école, quand il était ministre de l'Éducation nationale. on ne peut pas dire que ça ait changé quoi que ce soit. Mmh. Ce qui veut dire que Gabriel Attal, et ça c'est un vrai problème pour moi, pour lui, enfin, il fait ce qu'il veut, il a manifestement les médias avec lui, mais tout de même, il doit tenter, il doit tenter de dire qu'il n'a rien à voir avec Macron, alors qu'en réalité, il a été non pas seulement l'un des apparatchiks du système Macron, il a été en réalité aux manettes directes ou indirectes de tous les postes à problème, de tous les gens qui ont pris, bon gré mal gré, les mauvaises décisions depuis 10 ans, et je le précise, à seulement 37 ans aujourd'hui, ce qui veut dire que très tôt, il a eu très tort et qu'il va devoir nous faire le croire le contraire en 2017.
Ouais. Alors surtout que ce qui est assez fascinant, c'est que d'un côté, vous en avez parlé un petit peu, mais Gabriel Attal se rappelle dès qu'il passe sur un entretien dans une interview qu'en réalité il a interdit l'abaya, qu'il est pour la laïcité, qu'il est pour la fermeté dans la laïcité, tu casses tu payes, on connaît son expression. D'un autre côté, il joue aussi sur sa gauche en remettant une pièce dans la machine progressiste, notamment au niveau de la GPA. Alors là, c'est un petit peu la nouvelle offensive attalienne, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que là, ces derniers jours, on peut apercevoir qu'il pousse particulièrement le sujet de la GPA, que d'ailleurs, il est l'un des seuls à le faire. Et il a même dit, coïncidence formidable, que lui voulait un enfant avec son compagnon Stéphane Séjourné. Stéphane Séjourné qu'il avait nommé ministre quand même, alors que lui-même était Premier ministre et que en réalité, c'est fait ces journées dont, pareil, le bilan est plus que discutable. Mais sur cette question de la GPA, en tout cas, on voit qu'il essaye aussi, comme le faisait Macron à l'époque, de jouer avec sa gauche par le progressisme.
Ah, complètement. Alors, vous savez, essayons quand même de dépasser un peu le cas Attal pour tout intéressant qu'il soit ou non, d'ailleurs, dans cette période pré-présidentielle. En fait, Gabriel Attal, il est, pour moi, c'est extrêmement simple. Emmanuel Macron a été également ce candidat-là, mais. J'allais dire, je vais peut-être vous étonner ce matin, je m'excuse d'être, je vais avoir un mot sympathique à l'égard de notre actuel président de la République, ce qui me paraît un peu délirant, oui. Mais bon, vous savez, après la Pentecôte, tout arrive, hein. c'est que tout de même, Emmanuel Macron, quand on se rappelle qui il était il y a 10 ans, je veux dire, je m'attendais pas grand chose de lui, il a fait bien pire que prévu encore, Il n'empêche, il y avait quelque chose chez lui d'une envergure presque curieuse, un peu mystique, parfois chez Emmanuel Macron, que n'a absolument pas Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est vraiment, on a le sentiment d'avoir un politique au petit pied, roué sous la politique, qui a fait de la politique. On est quand même un peu loin d'Emmanuel Macron qui osait nous dire qu'il ne voulait pas faire de politique et qu'il était par-delà les clivages. Je trouve qu'il avait quelque chose de plus fascinant dans sa...
Il faut dire aussi Emmanuel Macron se rajouter un côté, alors qui était faux bien sûr, mais un petit peu philosophe, un petit peu spirituel, un côté effectivement où il voulait transcender les clivages. Je suis d'accord, il y avait une envergure qui était différente, alors que pour le coup, Gabriel Attal, il commence chez Hollande, c'est quand même le candidat du système, quoi.
Ouais, exactement. Alors, Emmanuel Macron était tout autant le candidat du système, mais là, effectivement, je vous rejoins, il avait fait l'objet d'un livre de mémoire de Brice Couturier, je crois, qui s'appelait Emmanuel Macron, le président philosophe à l'époque. Alors, fallait quand même oser écrire un bouquin pareil, rien que le titre est une insulte à l'égard de tous ceux qui ont précédé, je pense au général de Gaulle ou à d'autres présidents naturellement. Il n'empêche, il y avait quelque chose comme une sorte d'épaisseur un peu mystique et certains le regardaient comme le nouveau messie. Ce que n'est pas Gabriel Attal. Gabriel Attal, vous avez raison, c'est beaucoup plus l'homme du système, un peu à l'ancienne. Il y a une différence, donc je disais, d'épaisseur et de personnalité entre les deux. Et puis d'autre part, je disais tout à l'heure, pour répondre à votre question, Gabriel Attal, pour moi, c'est typiquement le rajeunissement du candidat progressiste. On est vraiment dans le progressisme chimiquement pur, c'est-à-dire qu'il n'offre absolument aucun intérêt, si ce n'est de pousser l'agenda que d'ailleurs Macron a poussé durant ces années. Je vous donne évidemment plusieurs exemples. On pourrait parler évidemment de la GPA aujourd'hui, la gestation pour autrui. Il y a évidemment le cas emblématique durant les années Macron de la constitutionnalisation de l'IVG, qui n'offrait aucun intérêt parce qu'en fait, il avait déjà valeur constitutionnelle d'une autre manière. Mais passons sur le fond, je vais vraiment sur la forme, et de l'IVG, je veux dire. Et Gabriel Attal, c'est le candidat progressiste parce que je pense profondément qu'avec son histoire avec Stéphane Séjourné, son pacte, ils se sont séparés, ils sont remis ensemble. Oui. Désormais, il en parle. Il parle de lui, je veux dire, dans son homosexualité et sa vie avec Stéphane Séjourné. Je n'ai qu'une remarque à faire là-dessus, c'est qu'en fait, exactement comme Jean-Luc Mélenchon, exactement comme lui, Gabriel Attal parie sur une certaine forme de nouvelle France. C'est qu'en fait, pour lui, maintenant, la France de la diversité est une France dans laquelle l'hétérosexualité, je veux dire, n'est finalement qu'un reste vieillissant d'une société, on va dire, traditionnelle ou réactionnaire. Au fond, s'il y a de plus en plus de couples homosexuels, ça veut dire que de plus en plus de gens voteront pour lui. Mmh. Ce qui veut dire qu'il parie sur la mutation des métropoles. On est nouveau dans la question de la Nouvelle-France. Parce que Gabriel Attal fait le pari que les métropoles boboisées, smoothisées, intégrées, européistes, etc., sont fondamentalement enclines à entendre un discours diversitaire, pro-multiculturalisme, etc., et naturellement un discours sur la sexualité et la famille qui sera aux antipodes du discours traditionnel. C'est pas du tout étonnant.
Alors, Guylain Bénessa, je vais me faire l'avocat du diable donc de Gabriel Attal, mais il est quand même allé à la campagne pour aller déclarer sa candidature au milieu d'un petit village français dans lequel on voyait un drapeau français, où il y avait du pâté, où il y avait du saucisson. Est-ce qu'il ferait pas aussi un côté terroir, Gabriel Attal? Est-ce que c'est vraiment le candidat des bobos? Regardez cette annonce de candidature tout de même.
Vous savez, l'annonce de candidature de cette façon-là, pour moi, c'est simplement la France du « en même temps » d'Emmanuel Macron. De nouveau, les mêmes ficelles. C'est-à-dire que, vous savez, à un moment, la sociologie domine très largement l'hubris des petites gens. Ça veut dire que, je m'excuse de dire petites gens, mais on a des politiques aux petits pieds depuis des décennies. Gabriel Attal, il est un candidat progressiste. Il est un candidat qui, sur le fond, au niveau de la sociologie, est assez proche, je pense, de Raphaël Glucksmann. Donc, je veux dire, aller dans la France qui souffre, la France périphérique, la France de Guy Louis, celle qui vote RN depuis maintenant des décennies, en réalité, qui a basculé depuis longtemps. Je ne dis pas par là qu'Attal ne mettra pas un drapeau français pour faire bien.
Oui.
Il faut bien faire semblant d'être patriote au moment où le patriotisme redevient une valeur fréquentable. Il faut bien faire semblant d'être français quand on se rend compte que l'Europe nous suicide. Mmh. Il faut bien faire semblant d'être de chez nous lorsqu'on se rend compte que le monde extérieur est un risque, que les dangers augmentent. Il n'empêche, c'est du cosmétique. Je pense quand même qu'un homme comme lui, qui a fréquenté l'IEP durant des années, qui a fréquenté la fin de la Hollandie, qui est un homme de la Macronie, je ne crois pas franchement qu'en 2026, en ce 26 mai, on ose pouvoir dire qu'il a arrêté de fréquenter tout ce qu'il a adulé durant ces décennies et qu'il est censé vouer aux gémonies pour redevenir un homme de la maison France. Sincèrement, il a peut-être que 37 ans, mais vous savez, faire son chemin de Damas, c'est compliqué, et surtout l'intérioriser, comprendre vraiment que le monde d'hier n'est plus le monde de demain et que la France existe toujours. Je me demande même comment Gabriel Attal ose le dire, si ce n'est qu'il faut faire comme Macron dur en même temps, c'est-à-dire on est tout. En même temps, on est français, européen, homosexuel, hétérosexuel, on est tout. On est vraiment cet homme liquide que Gabriel Attal, incarne quelque part à la merveille avec son jeune âge, son style, son égocentrisme, son moi-jeu à toutes les sauces, son récit personnel qu'il utilise plus d'une fois. Il est tout cela en même temps. Il est effectivement la suite d'Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Guylain Bénessa d'être avec nous ce matin. Merci, je rappelle que vous êtes donc docteur en droit public, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de notamment Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Merci car nous avons besoin de vous comme vous avez besoin de nous. Et finalement, nous, on vous offre des émissions et en échange, vous nous offrez...
Eh ben, le droit de continuer à vous informer, tout simplement, dans la plus grande indépendance.
C'est bien dit, ça.
Vous pouvez nous soutenir financièrement en vous rendant sur cette adresse soutenir.rc.fr. Et puis, merci de nous adresser vos chèques également par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, et puis d'un autre côté, il n'y a pas seulement Ligne Droite, Radio Courtoisie, il y a de nombreuses autres émissions, à commencer par celle d'aujourd'hui.
Alors tout à l'heure, dans un instant, à 10h, les Mardis de la Mémoire avec Anne Collin. À midi, en direct, le libre journal de la Nouvelle Droite, dirigé par Xavier Aymon. La remigration est-elle possible? Le libre journal de la France Libre, ce sera à 14h avec Henri Foucrot, avec entre autres le statut de la Corse et des projets de modification de la Constitution. À 15h30, culture et politique de Richard Haddad et Pierre Henry, des régions françaises à visiter, des films mythiques à voir. À 16h, planche, cases et bulles de Richard de Sèze Histoire vraie, Escoffier, Bernard Nathan et les évadés de Kolditz. À 16h30, RC Mag, proposé par Jean-Étienne Poza, Fidélité au pays réel, combat, transmission et reconquête avec, entre autres, Pierre-Alexandre Bouclet. À 17h, Populaire, vous avez dit Populaire, avec Renaud Dourges, Albert Villemetz pour son livre 60 ans d'occupation de Sacha Guitry. Restons courtois, ce sera à 17h30 en direct, dirigé par Richard de Sèze, au programme La Défense et l'illustration du peuple, avec en première partie Bruno Lafourcade, écrivain, Patrice Jean, écrivain également, et Romaric Sangar, écrivain et journaliste pour Underdog de Bruno Marsan, paru aux éditions Séguier. Et puis à 19h30, le Libre Journal du Droit et des Libertés, dirigé par Olivier Tournafon, les nouveaux virus à la mode avec le professeur Perron et Nicolas Stocker. Et puis enfin, ce soir, à partir de 21h30 et en direct, le Monde de la Foi, proposé par Nicole Pilorge, le cœur chrétien d'un seigneur des médias, avec Gérard Carrérou, figure majeure et historique du paysage médiatique français.
Eh ben c'est superbe. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, chers auditeurs, mais une encyclique a été publiée hier, donc par le pape Léon XIV, et donc nous en parlerons demain de 7h25 à 8h15 dans un débat entre Laurent Alexandre et Jacques de Guilbon. Voilà un gros sujet qui vous intéressera sans doute. Et puis également, nous recevrons Mathias Renaud qui nous parlera des ZFE. Donc voilà, je vous dis de mon côté, à demain 7h.
À demain.